Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, comme ça a été mentionné, mon nom c'est Alain Gerber et j'étais parmi vous il y a 2 ans, je crois. On avait fait un plug, c'est comment vous appelez ça, plug and play, non ? Un samedi soir. Alors, comme ça a été dit, je viens du canton du Jura. J'habite à côté de Porrentruy dans un village qui s'appelle Cornolles. J'ai grandi dans cette région-là et puis ensuite j'ai fait mes études ici à Genève, une licence en sciences de l'éducation. J'ai travaillé à Fribourg un moment tout en habitant à Bienne parce que dès le début de la période où j'avais commencé mes études à Genève, nous avions commencé un groupe qu'on a appelé Génération Josué à Porrentruy. Et c'était un groupe où on s'est retrouvé avec une équipe de jeunes et notre but c'était de prier pour le réveil. On avait passé par des choses un peu difficiles sur lesquelles j'ai pas envie de revenir, mais on avait dit on doit se retrouver, il faut qu'on prie, nous voulons voir un réveil et si on reste chacun dans notre coin, on va juste s'éteindre. Mais on avait quelque chose qui brûlait dans notre cœur, alors on a dit on va se retrouver. On a pris le nom Génération Josué parce qu'on l'avait notamment entendu à l'ARJ et dans d'autres enseignements, mais surtout parce que Dieu nous l'a mis à cœur pour dire nous ne voulons pas être cette génération qui va tourner en rond dans le désert. Nous voulons être de ceux qui entrent dans les promesses de Dieu, qui vivent la parole de Dieu et qui entrent dans la terre promise. Et nous voulons aller le plus loin possible avec Jésus. Et donc ça, c'était ce qu'on avait commencé à faire. Donc même si je faisais mes études ici à Genève, j'ai pas beaucoup connu Genève les samedis et dimanches parce que je retournais dans le Jura comme bon nombre de jurassiens. Sauf que moi, c'était pas pour boire de la damascine, c'était pour boire du vin nouveau du Saint-Esprit parce que Dieu a commencé à déverser son Esprit Saint dans nos vies. C'était 94-95 quand on a commencé, début 95 en fait. Et Dieu a commencé à déverser son Saint-Esprit dans nos vies. C'était juste extraordinaire. Au début, on se retrouvait le soir très tard et on passait à peu près toute la nuit à prier. Et puis le lendemain matin, j'allais au culte dans mon église un peu plus traditionnelle. Et on a vécu des choses juste merveilleuse que Dieu a faite. Et donc ça, c'était le début de Génération Josué, 95. Et ça fait un peu plus de 20 ans, donc. Voilà, ça c'est toujours là que je suis aujourd'hui. C'est ce groupe de jeunes chrétiens qui était d'abord juste une église de jeunes. Enfin, au début, on a dit on ne veut pas faire une église, mais on s'est fait avoir. C'est devenu une église. Aujourd'hui, on appelle ça aussi le Centre chrétien de Porrentruy. Nous sommes une équipe de responsables. Je travaille particulièrement avec Jonathan Rivers-Kirby, qui était aussi venu ici, qui avait fait, je pense que vous avez parlé des proverbes, puisqu'il avait, il a fait une traduction des proverbes, une traduction nouvelle. Et puis, c'est lui le responsable principal, mais on travaille aussi avec nos épouses, avec d'autres personnes dans cette église. Et voilà, Porrentruy, c'est une ville de 7000 habitants à peu près. On est tout près de la France, comme vous ici à Genève, mais de l'autre côté, nord-ouest. Et donc, on a aussi pas mal d'amis qui viennent de France pour louer Jésus ensemble. Et l'église, actuellement, elle a 50-60 membres. Enfin, on est entre 60 et 80 dans les célébrations, on va dire ça comme ça. On se retrouve en général le samedi soir. Et puis, vous avez les salutations de l'église. Voilà. Et puis ça, c'est pour le côté ministère à Porrentruy. Sinon, dans ces années-là, au début, dans les années qui ont été le début de Génération Josué, j'ai aussi rencontré une jeune femme qui est devenue ma femme. Mercredi, elle s'appelle Alaya. Elle était avec moi il y a 2 ans. Il y avait aussi nos enfants. Non, nos enfants étaient restés chez ma belle-sœur, pardon. Mais elle était avec moi il y a 2 ans. Alaya, ça fait 20 ans qu'on est mariés. On va fêter nos 20 ans de mariage mercredi. Voilà, donc on se réjouit. Et c'est une femme qui aime Jésus, qui aime Dieu. C'est pour ça qu'elle m'a plu particulièrement. Mais elle est très belle aussi. Mais vraiment, ce qui nous a rassemblés, c'était la puissance de Dieu, le feu de Dieu, le désir de gagner des âmes, d'annoncer l'évangile dans les nations. Et puis voilà, donc on est mariés depuis 20 ans, on a 3 enfants. La plus grande aura 15 ans vendredi. Et puis la deuxième aura 11 ans au mois de mai. Et puis le troisième a 8 ans au mois de janvier. Donc voilà, on a une jolie petite famille, on s'aime fort. Et puis on a envie de servir Jésus ensemble, c'est ce qu'on fait depuis un moment. Et on a envie de continuer. Et donc je suis content d'être avec vous ce soir. Sinon, peut-être juste encore un petit mot, vu qu'il l'a dit, je vais aussi un petit peu plus loin que Porrentruy des fois. J'ai l'habitude depuis quelques années, depuis 5-6 ans maintenant, d'aller environ deux fois par année faire de l'évangélisation en Afrique de l'Ouest, principalement au Bénin et au Togo. Et on a pu faire des... Alors, on ne fait pas des campagnes à la Reinhard Bonnke, ce n'est pas aussi grand, mais on va dans différents endroits, dans des églises, des villages. Et puis, je vais y retourner dans moins d'un mois, le 7 avril, je pars là-bas. Et je vais faire une semaine aussi d'évangélisation dans une ville du Bénin. Et ça se prépare. Donc, il y a tous les défis de l'organisation qui sont là maintenant. De ce que ça, d'être sûr que ça fonctionne quand on arrive, parce que parfois on a un peu des surprises. On n'a pas l'habitude en tant qu'Européen de fonctionner à l'Africaine, et eux, ils n'ont pas l'habitude de fonctionner à l'Européenne. Donc des fois, ça fait un petit peu des surprises, mais en général, on a vraiment vu des superbes choses se passer. Dieu agit, les gens sont sauvés, les malades sont guéris, et vraiment, c'est encourageant. Et puis, beaucoup de gens étaient aussi baptisés du Saint-Esprit. Donc vraiment, Dieu est fidèle, il est bon. Et voilà, si vous gardez un petit moment dans vos prières, petit espace, puis que vous priez pour ces campagnes d'évangélisation qui auront lieu dans la ville de Lokossa au Bénin, puis après j'aurai un séminaire de trois soirées, pardon, à Lomé, dans une église, des assemblées de Dieu, ben, volontiers, vos prières sont les bienvenues, ça fait une différence aussi, et c'est précieux parce qu'il y a des âmes qui sont sauvées, des gens qui sont libérés des chaînes de l'ennemi. Voilà, ça c'est pour la présentation, c'est assez. Je vais m'arrêter là parce que le but, ce n'est pas que vous me connaissiez bien, c'est que vous connaissiez Jésus et que vous ayez entendu le message que j'ai sur mon cœur ce soir. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu. Et ce qui a été défini, c'est que j'allais parler de la guérison et puis qu'on va aussi prier pour les malades après. C'est vraiment un sujet que j'ai à cœur, ce que j'ai... chercher à approfondir, je pense à peu près depuis le début que je suis chrétien, parce que ça m'a toujours intéressé. Et par la grâce de Dieu, ben, je vois qu'on peut grandir dans ce domaine-là. Et en fait, on va aller dans un chapitre de... Enfin, on va prendre une partie d'un chapitre de l'évangile de Matthieu que j'aime beaucoup, c'est le chapitre 8. Et on va lire un bout là-dedans, mais j'aimerais d'abord donner un petit peu de contexte, parce qu'en fait... Je ne sais pas si c'est pas très clair au niveau temporel, mais j'aime bien appeler ce message « Une journée avec Jésus ». Je crois qu'on peut voir vraiment une journée là de Jésus tel qu'il les vivait. C'est un moment où Jésus redescend de la montagne après avoir enseigné ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il y a les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Jésus enseigne sur cette montagne et il va parler du royaume de Dieu et montrer comment ce royaume de Dieu s'établit, se manifeste dans la vie des croyants, quelle forme il doit prendre, comment les croyants sont appelés à avancer, à marcher, à croire. Et c'est quelque chose qui parle vraiment aussi de quel est le caractère du chrétien, comment il va réagir aux circonstances de ce monde, comment il va fonctionner différemment de ce monde parce que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et Jésus enseigne sur cette montagne et la Bible nous dit qu'il enseigne les foules avec autorité. Les gens sont surpris parce qu'ils n'ont pas l'habitude de quelqu'un qui leur dit les choses avec tant de clarté et tant d'autorité. Et ils perçoivent qu'il y a dans ce message quelque chose qui est révolutionnaire, qui change les cœurs, qui change les vies. Et les foules se mettent à suivre Jésus. Et donc ça, c'est ce moment, au moment où ils redescendent de la montagne, qu'on va leur trouver dans ce chapitre 8. Mais aussi, j'aimerais juste faire un tout petit saut en arrière, parce qu'avant le sermon sur la montagne, on voit le début du ministère de Jésus dans les chapitres 1 à 4. On voit la naissance de Jésus, les mages qui viennent à Bethléem, Jean-Baptiste qui vient et qui prépare le chemin pour Jésus, Jésus qui se fait baptiser, qui se fait... remplir du Saint-Esprit, la colombe, enfin, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, comme une colombe sur Jésus. Et puis ensuite, il est emmené dans le désert par le Saint-Esprit et il va être tenté là, dans ce désert. Pendant 40 jours, 40 nuits, il jeûne et le tentateur vient pour essayer de le faire trébucher. Mais Jésus sort vainqueur et la Bible nous dit que quand il sort du désert, eh bien, il revient avec de l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et Matthieu va résumer le ministère de Jésus qui est à son début dans les versets 23 et 24 de Matthieu 4, où il a dit que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Et puis il est dit que de grandes foules le suivaient et elles venaient de beaucoup d'endroits pour écouter Jésus. Donc on voit que dès le début, le ministère de Jésus, il se définit clairement par le fait d'aller, d'enseigner, de prêcher une bonne nouvelle, hein, pas des choses tristes et culpabilisantes, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de guérir toute maladie et toute infirmité, et ça inclut des délivrances. Et on voit que c'est comme ça que Jésus commence, et dès le chapitre 4, bien, Matthieu peut résumer déjà la manière dont fonctionnait Jésus par ces quelques versets, et on voit qu'il y avait du monde qui venait. Donc, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là, que partout où Jésus va, non seulement il parle, mais il manifeste le royaume de Dieu. Et ensuite, comme je l'ai dit, il enseigne ce royaume de Dieu dans les chapitres 5, 6, 7, et on le retrouve au chapitre 8. Et juste avant de les lire, je veux dire ceci, c'est qu'on va lire jusqu'au verset 17, mais ce qu'on voit ici, ce sont les premières guérisons individuelles qui sont rapportées dans les évangiles. Et je crois que si l'évangile de Matthieu est en premier, c'est que Dieu a aussi établi les choses comme ça. On peut discuter là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment une inspiration de Dieu. L'évangile de Matthieu, ça nous présente vraiment Jésus comme le roi. Ça nous parle du royaume de Dieu. Et au travers de Matthieu, le Saint-Esprit met en évidence quelques guérisons individuelles. Comme je viens de le dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup de guérisons, de délivrances qui ont lieu au travers de Jésus. Ce n'est pas juste qu'il prend les trois guérisons qui ont lieu. Hein, parfois, les évangélistes, on aime raconter quelques guérisons qu'on a vues. Et puis, on pourrait parfois même raconter un peu toujours les mêmes, si on n'en voit pas des tonnes. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus envoyait énormément, que dans les foules, il y avait les malades qui étaient guéris, quasiment tous, à chaque fois. Et donc, là, le Saint-Esprit va sélectionner quelques guérisons individuelles. Pourquoi je dis ça ? Parce que je crois que s'il nous donne ces premières guérisons de tous les évangiles ici, c'est parce qu'elles contiennent des leçons importantes pour nous sur le sujet de la guérison. Alors peut-être que vous les avez déjà découvertes, mais j'aimerais qu'on revienne à cela ensemble, parce que pour moi, c'est vraiment toujours quelque chose qui me rappelle des fondamentaux sur le sujet de la guérison, de ce que Dieu veut faire. Alors on va lire ces trois guérisons en lisant depuis le premier verset jusqu'au verset 17 de Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Va » et il va. À l'autre, « Viens » et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Donc, bien sûr qu'on peut continuer et puis lire tout l'évangile, hein, mais ce bout-là nous parle particulièrement de la manière dont Jésus va manifester le royaume de Dieu dans le domaine physique, dans le domaine des corps, en venant contre la maladie. Et la première des guérisons que nous avons lues, c'est celle d'un lépreux. Et donc, comme je disais avant, c'est la toute première des guérisons individuelles qui nous sont rapportées dans l'Évangile. Et cet homme, c'est un lépreux, donc il souffre d'une maladie qui, à l'époque, est à peu près la pire qu'on puisse avoir, parce que c'est une mort très très lente qui vous attend, mais c'est surtout l'exclusion sociale complète. Le lépreux a une maladie terrible parce que c'est une infection de la peau qui va ronger petit à petit son corps, qui va tuer la sensibilité des nerfs et qui va faire que jour après jour, il va se blesser davantage, son corps va être rongé par le fait qu'il ne sent pas la douleur. Des fois, on se dit, c'est terrible d'avoir mal, mais c'est encore plus terrible de ne pas avoir mal parce que vous usez votre corps sans vous en rendre compte et vous vous blessez sans vous en rendre compte. Et donc, cet homme-là, il est là et il est au banc de la société. Il souffre quelque chose d'affreux. Non seulement il est rejeté, enfin il souffre physiquement, mais en plus il est rejeté par sa famille, par ses proches, et il ne peut pas s'approcher d'eux, il ne peut pas les rencontrer. Et donc, cet homme-là, c'est un cas désespéré. Et il vient se jeter aux pieds de Jésus avec ses mots, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cet homme, il avait une certitude, c'est que Dieu est capable. Il savait que Dieu est assez grand pour guérir. Ça, il le savait. Ce n'était pas un problème pour lui de se dire que Dieu peut guérir. S'il est Dieu, il peut tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des gens qui croient au moins qu'il y a un Dieu, ils savent que Dieu peut guérir. Mais par contre, il avait une grande question, c'était « est-ce que tu veux ?» me guérir. Parce que tu peux, mais est-ce que tu veux ? Et c'est une question importante. Et je trouve très intéressant qu'en fait, la première histoire de guérison individuelle traite exactement ce point-là sur le sujet de la guérison. Comme si Dieu voulait clarifier une fois pour toutes et en commençant avec la réponse que Jésus a donnée à ce lépreux. Et la réponse est « je le veux ». Voyez-vous, il aurait pu choisir des tas d'autres guérisons. Il y en avait des dizaines, des centaines, sans doute même des milliers, mais il en choisit une en premier, celle qui va nous clarifier que le cœur de Dieu, c'est « je veux te guérir ». C'est pas seulement « je peux », mais « je veux ». Et c'est une lutte qu'on a souvent nous-mêmes, c'est « est-ce que Dieu veut me guérir ? Est-ce que Dieu veut guérir telle ou telle personne ? Est-ce que c'est bien sa volonté que les gens soient en bonne santé ?» Et là, nous avons une réponse qui est très claire, qui vient d'emblée. Et j'aimerais juste préciser ceci, c'est que cette histoire du lépreux, on la trouve pas seulement dans Matthieu, mais on la trouve aussi dans Luc et dans Marc. Et si vous avez besoin de plusieurs témoins, eh bien il y a plusieurs témoins. C'est Matthieu, Marc, Luc qui rapportent la même histoire et qui rapportent également la même réponse de Jésus à ce lépreux. « Je le veux, sois guéri, sois pur, c'est ma volonté. » Voyez-vous, je crois que Dieu aime vraiment que nous sachions que non seulement il peut nous guérir, mais qu'il veut nous guérir. Si je vous dis, écoute, je sais que tu pourrais me rendre ce service, mais j'ai un doute que tu veuilles vraiment le faire. Je suis en panne avec ma voiture, je sais que tu pourrais très très bien, là tu as le temps, tu as les moyens, tu as la voiture, tu as le crochet, tu as les câbles qu'il faut, tu pourrais me conduire, mais... J'ai un réel doute que tu veuilles. Si quelqu'un me dit ça, alors que j'ai tous les moyens, j'ai le temps, etc., et que je ne suis pas du tout empêché de l'aider, je vais un peu le prendre de manière offensante, non ? Si quelqu'un remet en doute votre bon vouloir de faire quelque chose de bien, n'est pas ce que vous appréciez le plus. Et je crois que de la même manière, remettre en doute le fait que Dieu, qui est totalement capable, remettre en doute le fait qu'il veuille guérir, c'est un petit peu offensant quand même. Et nous devons être attentifs à ça et réaliser que Dieu veut guérir. Et d'ailleurs, je réfléchissais en me préparant encore et je parcourais ma Bible parce que j'ai mis de l'orange partout, il y a de la guérison, etc. Et je regardais et je me disais, mais si je prends les débuts de ma Bible, il n'y a quasiment pas de mention de guérison jusqu'au moment où dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors vous voyez que Dieu est intervenu en faveur de Sarah qui n'avait pas d'enfant jusque-là, mais pour elle, il n'est pas dit qu'elle ne pouvait pas concevoir. Il a juste dit qu'elle n'en avait pas jusque-là, mais que Dieu est intervenu en sa faveur. Et puis vous voyez aussi que Rebecca, quand son mari a intercédé pour elle, Dieu l'a touchée et puis elle a pu avoir un enfant. Donc vous voyez qu'il y a des guérisons et que Dieu veut le faire. Mais sinon, une des premières choses que vous voyez, c'est que Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et dans Matthieu, dans cette première guérison, « Je suis celui qui veut te guérir, pas seulement celui qui peut te guérir. » Et donc, la première leçon que j'aime tirer de ce passage dans Matthieu 8, c'est que Dieu veut guérir. Non seulement il peut, mais il veut guérir. Et c'est quelque chose que nous devons tous établir dans notre vie. Nous ne pouvons pas faire notre théologie en fonction des expériences, oui, mais la tante un tel qui était quelqu'un qui priait beaucoup, elle n'a quand même pas été guérie, etc. Nous devons établir notre foi sur la parole de Dieu et pas sur les expériences. Parce que sinon, on va remplacer la parole de Dieu par une tradition. Et on voit où ça mène, les églises ou les mouvements qui ont mis juste la tradition devant perdent de la vie et on finit par partir dans des dérives. Donc nous devons garder la parole de Dieu. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas, mais ce n'est pas un problème pour Dieu qu'on ne comprenne pas tout. C'est un problème pour nous, mais pour Dieu, ce n'est pas un problème qu'on ne comprenne pas tout. Ce qui est important, c'est que nous ayons notre foi placée au bon endroit. Vous savez, il y a quelques années, ça fait 15 ans, maintenant un peu plus, 16 ans, on venait d'être mariés depuis 2 ans et demi, 3 ans, et un jour, ma belle-mère arrive chez nous, et elle nous dit, je sors de l'hôpital et les médecins m'ont trouvé un cancer au pancréas. Une douche froide. On s'est battu avec elle, on a essayé de la garder dans la foi, on l'a aidé à éloigner d'elle les gens qui venaient tous lui raconter leurs mauvaises expériences avec le cancer, tout ce qui leur est arrivé de terrible, parce que c'est toujours ces gens-là aussi qui ont tendance à tourner autour des malades, ceux qui ont toutes les mauvaises histoires qui se sont passées, les mauvaises expériences, et on l'a aidée. Et puis, malgré tout, elle est décédée. Je n'ai pas compris, mais je crois... Quelques jours avant, ma femme a fait un rêve où elle a vu sa maman qui partait dans la gloire. Elle était chrétienne, elle avait donné sa vie à Jésus au travers de ma femme. Et c'était vraiment quelqu'un qui aurait pu nous soutenir et nous aider dans la vie. Alors, on avait le choix face à ça. Soit on faisait de notre théologie que Dieu ne veut pas toujours guérir, ou bien on gardait le cap et on disait non. Là, on n'a pas compris, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Peut-être qu'à un moment donné, ma belle-mère a choisi dans son cœur de dire « je préfère rejoindre le Père ». Je ne sais pas et je ne vais pas chercher de piste. Toujours est-il qu'avec ma femme, on a dit « nous continuerons de prier pour les malades ». Peut-être, je ne sais plus le temps après, à peu près un mois après, je crois, un homme arrive dans notre église. Il était squelettique et il nous dit « les médecins que je connais bien, parce qu'il avait été infirmier anesthésiste, font des paris, en fait, pour savoir combien de temps il me reste à vivre. J'ai un cancer du foie, je suis déjà à un stade vraiment avancé. Il passait des fois des heures couché sur le sol de sa cuisine tellement il avait des souffrances. Et il ne savait plus quoi faire. Il était allé voir des hommes de Dieu, il était allé dans plein d'endroits. Il avait vu un homme de Dieu qui lui avait dit, qui avait pourtant vu plein de miracles. Hein, je ne vais pas le citer parce que c'est peut-être juste une fois où il a dit quelque chose qui n'était pas idéal. Il lui a dit, mais à votre âge, ça peut être l'âge de mourir aussi. Donc, il est remonté du sud de la France où il est allé le rencontrer. Puis, il arrive dans notre église parce que quelqu'un lui avait dit, là, il prie aussi pour les malades. Et on a prié pour lui. Plusieurs fois, il est venu. Il est tombé sous la puissance de Dieu. Il est encore dans notre église aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et il a vécu des tas d'autres guérisons. Vous voyez, on aurait pu s'arrêter, mais on a déterminé. Ce n'est pas notre expérience qui va déterminer ce que nous croyons. Mais c'est ce que nous croyons qui va changer les choses. Pour moi, c'est un trophée de dire au diable, Satan, tu as voulu nous voler, tu as voulu nous décourager, mais cet homme-là est pour moi la preuve que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et il a vécu d'autres guérisons. Il n'y a pas si longtemps, il avait d'énormes problèmes dans les jambes avec le système circulatoire. Et Dieu l'a guéri à nouveau. Donc voilà, Dieu fait de grandes choses. Et ça, c'est juste pour dire, nous devons garder ce cap que Dieu veut guérir. On peut aussi tirer de cette histoire du lépreux un autre élément. C'est que Jésus lui a demandé aussi d'aller faire attester sa guérison. Il ne lui a pas dit « va en parler comme ça à tout le monde », il lui a dit « va voir les sacrificateurs ». À l'époque, c'est eux qui pouvaient dire que le lépreux était guéri. Je peux vous dire que même si Dieu avait prévu ça dans la loi, ça ne devait pas arriver très souvent en Israël qu'un lépreux aille vers un sacrificateur ou le souverain sacrificateur et lui dise « il faudrait contrôler, je crois être guéri de la lèpre ». Mais au temps de Jésus, ça s'est passé. Et Jésus voulait que ce soit attesté pour que les sacrificateurs sachent que la parole de Dieu est vraie, que des lépreux peuvent être guéris. Et sache qu'au travers de Jésus, ça se passe. Mais aussi, ça permettrait ensuite à ce lépreux de réintégrer la société, de ne pas rester de côté. Bon, ce lépreux, il nous a dit dans les autres évangiles qu'il a commencé à parler partout. Et du coup, les foules sont venues vers Jésus au point que Jésus ne pouvait plus entrer dans des villes et des villages. C'est-à-dire que c'était une guérison qui a quand même frappé les gens. Parce que le médecin Luc, lui, nous donne aussi une précision de plus, c'est que cet homme était couvert de lèpre. Ce n'est pas juste qu'il avait une petite tache quelque part qui venait d'apparaître. Il était couvert de lèpre. C'est le médecin qui dit ça. Il est allé un peu plus loin dans les investigations. Mais ça a tellement marqué les gens que Jésus guérisse un lépreux qui se sont dit, s'il a pu le guérir lui, s'il a pu faire ça pour cet homme-là, il peut le faire pour nous. Et du coup, les foules venaient et Jésus ne pouvait plus entrer librement dans une ville ou un village. Et donc, les foules venaient dans le désert. Je vais aller un peu dans la suite, la guérison suivante. La deuxième que Matthieu, ou plutôt que le Saint-Esprit au travers de Matthieu, choisit de nous raconter, c'est celle de ce centenier. Ce centenier qui avait non pas une maladie lui-même, mais un serviteur malade, un serviteur qu'il aimait beaucoup, un serviteur dont il voulait aussi prendre soin. Et du coup, cet homme s'adresse à Jésus. Alors ici, on voit dans ce texte qu'il a parlé directement avec Jésus, mais quand on relit dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc, sauf erreur, eh bien, nous voyons qu'il n'a même pas rencontré Jésus en personne, mais qu'il a envoyé d'autres personnes pour parler avec Jésus et lui demander d'intervenir. Ce n'est pas très important qu'il l'ait rencontré ou pas, parce que de toute façon, ce qu'on voit, c'est que ce que ça peut nous apprendre, simplement, c'est qu'un messager, il est là pour transmettre une parole et ce n'est pas lui qui est important. C'est comme si vous parliez directement, mais par l'intermédiaire d'un messager. Mais ça nous parle clairement de foi et d'autorité. Et si on se dit que cet homme n'a même pas rencontré Jésus personnellement, ça donne encore peut-être une dimension plus grande à ce qui s'est passé entre lui et Jésus. Toujours est-il qu'il vient et il supplie Jésus et lui dit « Mais mon serviteur, il est couché, paralysé, violemment tourmenté. » Et de nouveau, nous avons là une réponse de Jésus qui montre combien il désire guérir. Parce qu'il dit « Ben moi, je vais aller le guérir. » Et Jésus est prêt à se mettre en mouvement. J'aurais été à la place du centenier, je me serais dit « Génial, Jésus vient chez moi, il va régler le problème avec mon serviteur. » Et ça aurait été le cas. Jésus serait arrivé, il lui aurait imposé les mains, le serviteur se serait levé, la guérison aurait eu lieu. Mais ça, c'est ce qui se passait sans doute régulièrement, même s'il y a des endroits où Jésus, des fois, n'est pas allé chez les gens, d'emblée. Mais par contre, ici, le Saint-Esprit nous choisit une histoire où la personne qui a cette réponse de Jésus lui dit « Non, non, ne viens pas chez moi, parce que je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. » Donc c'était un homme qui était humble, un homme qui reconnaissait vraiment la supériorité de Jésus sur le plan spirituel en tout cas, et même sur sa vie. Et lui dit « Mais je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. » Nous, on se serait dit « Génial, Jésus vient. » Lui dit « Non. » Et il ne va pas juste dire non, parce que non pour empêcher que quelque chose se passe, puisqu'il est venu avec le désir que son serviteur soit guéri. Mais il a compris quelque chose que Dieu veut que nous comprenions nous aussi. Il dit, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot de Dieu peut changer toute ta vie. Il suffit d'une parole de Jésus pour que ta situation soit totalement transformée. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a même plus qu'une. Hein. Mais une seule suffit. Quand j'étais là il y a 2 ans, je vous avais parlé de la femme syrophénicienne qui avait dit à Jésus, « Mais c'est vrai, on ne doit pas donner le pain aux petits chiens, mais les petits chiens, ils mangent les miettes. J'ai juste besoin que tu me donnes une miette, Jésus. » Et ce sont les deux personnes dont Jésus dit dans la Bible, les deux seules dont Jésus dit qu'ils ont une très grande foi. Deux personnes qui avaient reconnu qu'il suffisait d'un mot de Dieu pour que leur vie soit transformée. En fait, ce qu'il avait compris, c'est que d'une part, la parole de Dieu est puissante, mais que dans le domaine de la foi, il y a une question d'autorité. Et que Jésus a l'autorité. Il a compris que Jésus est Seigneur. Et s'il est Seigneur, alors tout ce qui est en dessous doit se soumettre. Il n'y a pas d'autre nom. On a chanté le nom de Jésus ce soir. Et c'est extra parce que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Et tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a rien qui tiendra, même si aujourd'hui on a l'impression qu'il y a de la résistance. Mais en fait, le nom de Jésus est au-dessus de tout et rien ne résistera. Et sa parole, lorsqu'il l'envoie, elle va produire son fruit. Elle va produire son effet. Ce centenier dit, moi dans mon expérience de soldat, je sais que si je donne un ordre à un soldat, il va le faire. Et je sais que ça marchera parce que moi-même, quand on me donne un ordre, quand mes supérieurs me donnent un ordre, je respecte et j'obéis. Il y a une question d'autorité, mais dans la question de l'autorité, il y a une question de soumission. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a de l'autorité s'il n'a pas la soumission. Vous pouvez voir ça dans une armée. Si vous avez un lieutenant qui refuse d'obéir au colonel, le lieutenant ne pourra pas longtemps diriger ses hommes. Tant qu'il est soumis à sa hiérarchie, il pourra donner des ordres à ses hommes et ses hommes devront obéir. Mais s'il n'est plus soumis à son supérieur, on va lui retirer la possibilité d'agir. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre aussi, nous. Je donne dans ce message, on peut souvent se mettre à la place de celui qui va recevoir, mais mettons-nous à la place de celui qui doit apporter la guérison aussi. Ma femme m'a dit l'autre jour, je fais quelque chose qui change ma vie ces temps-ci. J'ai décidé qu'en relisant les évangiles maintenant, je vais me mettre à la place de Jésus dans ma représentation. Souvent, on se met à la place du malade, on se met à la place du disciple qui a un peu désobéi, de celui qui n'a pas fait juste, celui qui... Elle a dit, mais finalement, je suis le corps de Christ. Ce que je suis appelé à faire maintenant, c'est faire ce que Jésus a fait. Donc, je m'imagine être dans la peau de Jésus, dans ses textes, plutôt que dans la peau des autres. Elle m'a dit, ça change ma vie. Elle m'a dit, bon, il y a des limites, hein, je ne suis pas Dieu, c'est clair. Je ne vais pas pouvoir faire certaines choses, mais malgré tout, dans beaucoup de domaines, ça va nous parler. Et donc, quand vous écoutez des messages sur la guérison, peut-être que vous avez besoin de guérison, mais quelle que soit votre situation, ne vous mettez pas seulement dans la position de celui qui doit recevoir, mais mettez-vous aussi toujours dans la position de la personne qui doit donner. Et ce centenier nous donne à nous qui devons apporter la guérison une leçon, c'est celle que nous ne pourrons pas avoir d'autorité sur la maladie, nous ne pourrons pas avoir d'autorité sur les démons, si nous-mêmes nous ne nous soumettons pas réellement à l'autorité qui est au-dessus de nous, celle de Jésus-Christ, celle de la parole de Dieu, celle du roi des rois. Et souvent aussi, celle qui a été déléguée par Dieu dans notre vie. Ça peut être nos responsables spirituels, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, je suis soumis à Jésus, par contre pasteur, tu n'as rien à me dire. Mais si Dieu t'a placé dans un troupeau, c'est parce que le pasteur a quelque chose à dire dans ta vie. Ce n'est pas qu'il est parfait, c'est juste que Dieu lui a donné une autorité et qu'il a quelque chose à dire. Ça ne veut pas non plus dire qu'il peut t'ordonner tout ce que tu dois faire dans tous tes faits et gestes, mais ça veut dire que tu dois honorer et respecter sa responsabilité sur ta vie et l'autorité que Dieu lui a donnée et déléguée. Vous savez, parfois on parle de division dans les églises. Ben, le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, c'est qu'il y en a 10. Et quand vous avez division, vous avez 10 visions. Et le problème, c'est que chacun veut avoir sa vision et courir sa course. Bien sûr que Dieu a une vision pour toi, mais il a une vision pour son corps dans l'ensemble. Nous ne voyons pas toujours toute l'image. Dieu a une vision pour notre vie, mais souvent elle s'inscrit dans une vision plus large et nous devons du coup apprendre aussi à être soumis aux responsables qu'il nous a donnés. Ceci dit, et ça ne contredit pas, la principale soumission que nous devons avoir, c'est à la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu, et lorsque nous obéissons à sa parole, c'est là que nous allons avoir l'autorité. Et donc, ce centenier a compris, un mot de Dieu va suffire, parce que Dieu est tout-puissant, parce qu'il a l'autorité sur la maladie, il a l'autorité sur les démons, comme moi j'ai autorité pour dire à un serviteur ou à un soldat, va et il va le faire. Et quand je dis ça à mon serviteur, je ne me demande pas, quand c'est qu'il va s'y mettre ? Ma femme peut des fois se dire, quand elle me demande quelque chose, quand c'est qu'il va s'y mettre ? Je l'ai déjà répété 3 fois qu'il faudrait changer l'ampoule. Mais dans l'armée, là, le chef, le lieutenant, le centenier ne se pose pas la question. C'est maintenant. J'ai donné l'ordre pour maintenant. Tu y vas maintenant. Et le soldat ne se pose pas la question quand c'est qu'il devra le faire, à moins qu'on lui donne un autre délai. Il y va. Et c'est la même chose avec la maladie ici. Et donc, quand Jésus voit que cet homme a compris qu'un mot suffit, qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un soit là en présence pour t'imposer les mains, que quelqu'un fasse un déplacement spécial, mais qu'il suffit que tu reçoives la parole que Dieu a envoyée et tu seras transformé. Quand il voit que cet homme a compris cela, il dit, j'ai jamais vu une si grande foi, même en Israël. Donc une grande foi, c'est pas plein d'efforts. Une grande foi, c'est croire sans douter que ce que Dieu a dit va s'accomplir et que ça suffit qu'il l'ait dit pour que ça se passe dans ma vie aussi. Parfois, on a tendance à rendre la foi compliquée, mais si j'arrive à vous la rendre le plus simple possible, je serai très heureux. Parce qu'en fait, ce centenier l'a compris. Non, c'est plus simple, on peut aller plus vite que si tu fais le voyage pour venir jusque chez moi. Dis un mot, ça va se passer. Et la Bible nous dit que à la fin, Jésus a dit qu'il soit fait selon ta foi. Ce n'est même pas qu'il soit fait selon ma puissance, c'est qu'il soit fait selon ce que tu crois. Si tu crois que ma parole est suffisante, c'est ce qui va se passer pour toi. Et à l'heure même, le serviteur a été guéri. Et donc, ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des gens qui peuvent paraître très près du royaume de Dieu, très près des promesses de Dieu, mais qui dans le ciel ne seront pas si près que ça. Ne seront pas à la table où il était prévu qu'ils soient assis. Mais vous avez des gens qui semblaient être loin, comme ce centenier qui faisait sans doute partie de l'envahisseur des Romains. Et puis, lui, il est dit, il sera à la table des pères de la foi. Abraham, Isaac, Jacob, il sera assis avec eux, il va manger avec eux. Et ça, c'est une joie pour nous. Parce que nous aussi, on n'est pas à l'origine, à moins que vous ne soyez juifs, mais on n'est pas de ceux qui avions part à la promesse. Par contre, elle s'est étendue à nous. La porte nous a été ouverte, la porte de la foi nous a été ouverte pour que nous puissions nous aussi nous asseoir à cette table dans le royaume des cieux. Donc, première leçon, Dieu veut guérir. La deuxième, un mot de Dieu est suffisant pour guérir. Et puis, la troisième guérison qu'on voit, c'est racontée de manière très brève, c'est que Jésus, après avoir vécu ça, il se rend dans la maison de Pierre. Et puis, il voit que la belle-mère est couchée avec la fièvre. De nouveau, Luc, le médecin, nous dit que c'était une fièvre violente. Elle n'avait pas juste un petit peu des frissons comme ça. Elle avait une forte fièvre. Peut-être que c'était du paludisme, peut-être que c'était autre chose. Mais elle avait une fièvre qui la maintenait alitée. Et il a dit, il toucha sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Je vois là la troisième leçon importante au sujet de la guérison. Avant de la donner, je vais juste faire une petite digression. On fait régulièrement des réunions de guérison dans notre église, on a des évangélistes qui viennent, et Notamment, on a un évangéliste australien qui vient et à chaque fois, on a des gens qui viennent de loin. On a des gens qui sont venus et qui ont reçu la guérison après être venus de Turquie, de Suède, d'Allemagne. Il y a un an et demi, il y a un jeune homme qui s'est levé de sa chaise roulante. Il était venu d'ex-Allemagne de l'Est. Et puis, en fait, c'était il venait du Bélarus, réfugié politique, enfin. Mais il s'est levé de sa chaise roulante, là. Et puis, on a plein de gens qui viennent de notre région parce que le Jura et la Joie, notamment, vous avez plein de guérisseurs qui font le secret, qui font des tas de choses comme ça, beaucoup d'occultisme, et les gens vont chercher la guérison là où ils peuvent la trouver. Et comme on a annoncé ça comme des réunions avec un guérisseur, on dit bien qu'il prie au nom de Jésus, les gens viennent, et beaucoup sont guéris. Et parfois, hein, je vous ai dit, on est une cinquantaine, soixantaine, on s'est retrouvés à 130, on s'est retrouvés avec à peu près 80 personnes qui venaient de l'extérieur dans les réunions qu'on ne connaissait pas, avec plein de guérisons. Et puis, en fait, ce que je vois, c'est que les gens, ils viennent comme à la pharmacie, quoi. J'ai reçu le médicament, c'est bon, je suis guéri, je retourne chez moi, puis si un jour j'ai besoin, je retournerai à la pharmacie. Et puis, ça ne change pas vraiment leur vie. Alors, il y en a quelques-uns, Jésus avait le même problème, hein. Il y a 10 lépreux qui viennent, il n'y en a qu'un qui vient dire merci, tous les autres, oups, ils s'en vont. Mais ici, on a un autre exemple, une autre leçon. C'est la belle-mère de Pierre. Quand Jésus touche sa main, que la fièvre la quitte, elle va faire quelque chose que Dieu attend de nous. Elle se lève et se met à le servir. Et ça, c'est une leçon vraiment importante pour nous. Parce que parfois, on a juste envie de notre confort, de retrouver la santé, parce qu'on serait mieux. Mais cette femme avait compris une chose. Si je suis guérie en bonne santé, je peux vraiment le servir. Et je vais me mettre à sa disposition. Et donc, la guérison, elle est là pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, que tu puisses le servir lui et servir les autres. C'est plus difficile de servir Dieu quand on est mal en point, n'est-ce pas? C'est plus difficile de servir les autres quand on est malade. Si vous côtoyez des gens qui ont des douleurs depuis des années et des années, souvent ils luttent et on n'a aucun reproche à leur faire, mais vous voyez qu'au bout d'un moment, la douleur finit par taper dans le caractère aussi. Parce que c'est difficile d'avoir toujours mal. C'est difficile d'être là-dedans. Et ça amène toutes sortes de manières de penser qui souvent éloignent finalement de la possibilité de faire ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Alors, bien sûr qu'on a des exemples de gens qui ont souffert pendant longtemps et qui ont servi Dieu dans l'intercession, qui sont des exemples merveilleux. Et on ne doit pas critiquer cela. Mais le principe, c'est Dieu veut que tu sois en bonne santé parce qu'il veut que tu puisses le servir avec tous les moyens à ta disposition. Et s'il t'a guéri, sois reconnaissant. Sois reconnaissante et sers-le. Mets ton énergie, mets ta force à sa disposition. De toute façon, elle te vient de lui. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Il n'y a rien que nous ayons que nous n'avons pas d'abord reçu par grâce de Dieu. Chaque souffle qui sort de nos poumons, chaque inspiration, c'est un cadeau de Dieu. C'est un moment de vie qui nous est donné pour pouvoir continuer de le servir. Et puis aussi pour jouir de la vie, hein, parce qu'il n'y a pas que le travail et des choses où on fait des efforts. Mais chacun de ces moments, c'est un don de Dieu. Et donc ça, c'est la troisième leçon. C'est nous sommes guéris pour pouvoir servir. Et puis ensuite, il y a le soir qui arrive. On touche à la fin de la journée de Jésus. Il a vécu tous ces moments-là. Il a été à la synagogue et puis on lui amène, de nouveau là, ce n'est pas juste une guérison individuelle, mais on lui amène plusieurs démoniaques. Il chasse les esprits et puis il a dit qu'il guérit tous les malades. Ah, ça je me réjouis du jour, dans une réunion, je verrai tous les malades guéris. Quand on a cet Australien, on prie nous aussi, je peux vous dire, on a dû voir, de tous les gens pour qui on prie, souvent on a vu pas loin de 90% des gens qui étaient au moins une amélioration, voire des guérisons. Mais 100%, je me réjouis de voir ça. Et je crois vraiment qu'on est dans un temps où Dieu va répandre de plus en plus son esprit et ça va se manifester de plus en plus aussi, pas seulement parce que Dieu répand plus son esprit, parce que l'Église commence à être vraiment bien enseignée et à savoir quelle est son autorité et sa mission par rapport à la maladie et par rapport à la puissance de Dieu. Donc on va en voir de plus en plus. Mais ici, on voit qu'il guérit tous les malades. Et qu'ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Quand je vois qu'il a guéri tous les malades, pour moi c'est une fois de plus le rappel que Dieu veut qu'on soit tous en bonne santé. C'est un rappel de ce qu'il a dit aux lépreux, je le veux, sois guéri. Mais ça nous dit aussi qu'il n'y a rien qui soit trop difficile pour Jésus. Il n'y a aucune maladie qu'il ne puisse pas guérir. Nous, on se dit des fois les cancers ou le sida ou telle maladie. Rien n'est trop dur pour Jésus. Et ça peut nous paraître tellement étrange parce que nous, on a tendance à classifier selon les normes de la médecine. Mais nous devons simplement faire confiance à Jésus que par sa parole, les esprits de maladie, les esprits d'infirmité doivent partir. Par sa parole, la maladie s'en va. Les corps sont réparés, les corps sont guéris. Je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais en tout cas, ça ne contredit pas vraiment la Bible. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont eu des visions du ciel où ils ont vu des pièces détachées de corps, des bras, des têtes, des choses en réserve. Ils ont dit, j'ai vu des endroits dans le ciel où il y avait des pièces détachées. Alors c'était peut-être juste une image spirituelle où Dieu voulait leur faire comprendre, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour que tu sois en bonne santé. Mais toujours est-il que ne pensez pas que ce soit trop difficile votre situation pour Dieu. Parce qu'il nous aime. Parce que c'est toujours lui qui est l'auteur de la guérison et ce n'est pas nous. Et c'est ce qu'on voit dans ce dernier verset, le verset 17. La parole du prophète Ésaïe s'accomplit. Dieu l'a annoncé depuis longtemps. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Qui est l'auteur de la guérison? C'est Jésus. C'est lui qui prend la maladie, c'est lui qui prend tes douleurs, c'est lui qui s'en charge, c'est lui qui à la croix a pris toutes ces maladies, sur toutes tes maladies, tous tes problèmes, tout ce qu'il y a dans l'humanité, il l'a porté sur la croix. Et il a dit, tout est accompli. La maladie, quand on regarde dans la Bible, son origine, elle est liée au péché. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne la trouvez pas avant que le péché ne soit entré dans l'histoire de l'humanité et vous ne la trouvez plus après que le jugement ait eu lieu sur le péché et que le ciel soit notre demeure. Vous ne trouvez pas trace de la maladie ni dans le jardin d'Éden avant la chute, ni dans le ciel. Il n'y en a pas dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, pour moi, c'est juste clair. La maladie, c'est quelque chose que nous devons combattre. Alors, on ne combat pas les médecins parce qu'eux se battent contre la maladie aussi. On n'est pas contre la médecine, au contraire, on est très content. Il y a bien des gens qui ont été tenus en vie suffisamment longtemps pour avoir la foi, pour recevoir leur guérison grâce à la médecine. Et les médecins sont très utiles pour guérir des tas de choses, les médicaments aussi. Je ne suis pas contre ça du tout. Nous, on se bat contre cette maladie. Jésus est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est une œuvre du diable. La lèpre, vous ne la trouviez pas dans le jardin d'Éden. Et vous ne la trouverez plus au ciel. La lèpre nous parle également du péché dans la Bible. Et quand Jésus guérit le lépreux, il guérit, il montre aussi qu'il a la puissance sur le péché. Jésus est l'auteur de la guérison. Ça, c'est la cinquième leçon qu'on tire. Et celle qui va avec, c'est que c'est un accomplissement de ce que Dieu avait annoncé depuis bien longtemps par le prophète Ésaïe. Alors, la vraie guérison pleine et entière, absolument totale, elle aura lieu quand on sera ressuscité ou qu'on aura été enlevé dans la gloire. Et dans certains cas, je sais que ma belle-mère, je ne l'ai pas vue guérie ici, mais je sais qu'elle n'est pas malade là-haut. Donc je sais qu'elle est guérie. Et j'aimerais bien voir toutes les guérisons ici en bas. Je ne les vois pas toutes. Mais je reste confiant que même ici en bas, il peut y avoir bien plus de guérison que tout ce que nous expérimentons jusqu'à maintenant. Voyez-vous, dans tous ces textes, c'est aussi une leçon qu'on peut voir, c'est que dans ces exemples individuels, il n'y en a aucun ici au début qui était juste progressif. Ils sont tous très rapides, c'est toutes des guérisons très rapides. Il y en a quelques-unes des guérisons que Jésus a faites où on voit que ça a été progressif. Donc moi, je n'ai pas de problème avec les guérisons progressives. Au contraire, c'est très très bien aussi que ça se passe. Les gens sont guéris progressivement. Mais il y a beaucoup de guérisons qui sont très très rapides. Et donc je me dis, si la majorité dans le ministère de Jésus, c'est des guérisons rapides, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la majorité dans notre ministère à nous, dans notre expérience à nous? Visons le plus loin qu'on peut aller avec Jésus. Et puis ce qu'on ne comprend pas, comme je disais au début, on laisse de côté. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aimé et aidé, pardon, quand j'ai commencé de marcher avec Jésus, on le disait par rapport à la parole de Dieu, c'était, quand tu lis la Bible, fais comme quand tu manges le poisson. Tu manges la chair, tu laisses les arêtes de côté. Ce que tu n'arrives pas encore à digérer, laisse-le de côté. Après, j'ai découvert qu'en Afrique, quand je mange du poisson, ils rigolent parce que j'enlève les arêtes. Eux, ils les croquent et ils les avalent. Donc, il y a un moment donné, on peut aller plus loin dans la révélation. Ce que tu as laissé de côté dans la Bible, à un moment donné, parce que tu ne le comprenais pas, tu peux commencer à le mâchouiller. Et quand tu l'as bien mâchouillé, bien médité, bien eu à l'éclairage du reste de la parole, tu réalises que même ça, ça peut se manger. Et ce n'est pas juste à laisser totalement de côté et que tu vas aller de gloire en gloire et de révélation en révélation. Dieu a des choses pour nous. Et donc, c'est la même chose. Les choses qui sont révélées, elles nous appartiennent. Les choses cachées, elles appartiennent à l'Éternel. Et quand il sera le temps, il va nous révéler des choses. Mais il nous a aussi dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est d'aller chercher les choses et de les découvrir. Donc Dieu ne nous donne pas toujours tout du premier coup parce qu'il veut qu'on cherche. Et c'est la même chose dans la guérison. Et ce soir, je vous ai donné quelques éléments qui sont tout simples. Mais moi, ça m'aide tellement de les retrouver chaque fois dans Matthieu 8. Dieu veut guérir. Une seule parole suffit. Si je suis guéri, c'est pour le servir. Et il n'y a aucun problème qui est trop dur pour Dieu. Quand j'ai ça, j'ai 95% de la théologie liée à la guérison qui est réglée. Maintenant, il suffit de faire ce que Jésus a fait. Prendre sa parole, prier pour les malades, imposer les mains s'il faut, envoyer la parole quand il faut, toucher quelqu'un et le faire se lever. Pour la belle-mère de Pierre, il est dit ici qu'il a touché sa main. Mais il est dit dans Luc qu'il a menacé la fièvre. Et donc, nous pouvons voir les différentes manières d'agir de Jésus. On les reproduit et on s'attend simplement à ce que, comme avec lui, ça porte des résultats. Et ça va se faire. Amen. Une des choses qui m'avait frappé avec un homme de Dieu que je devais traduire et interpréter une fois, c'était que quand il priait pour les malades et il voyait des guérisons assez impressionnantes, il les regardait avec un sourire et il leur disait « T'inquiète pas, c'est facile. Don't worry, it's easy. Easy. It's easy to be healed. » Et parfois, nous, on est tellement crispés. Mais j'ai vu que quand les gens ne savent rien du tout puis que vous leur disiez, vous leur diriez simplement ben, « Écoute, je vais prier pour toi et Dieu va te toucher. » Ça se passe souvent très facilement parce qu'ils ne savent pas que c'est pas possible autrement. Et quand je vais en Afrique, les gens ont souvent tellement de besoins qu'on voit des guérisons se passer, c'est juste merveilleux. Mais je vais vous dire, plus on grandit dans la conviction que Dieu veut le faire, et plus on en voit se passer ici. Et dans notre église, au début, on s'est mis à prêcher la guérison, puis on criait victoire quand on voyait une ou deux guérisons. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus. Il y a deux semaines, je crois, il y a une dame qui est venue à l'église, c'est Jonathan, notre pasteur, qui a prié pour elle. En 15 minutes, elle a trois problèmes qui avaient plusieurs années de douleurs dans sa vie, des douleurs terribles qui ont été réglées. 15 minutes, pouf! Des douleurs à la nuque qui la bloquaient, des douleurs dans les jambes, elle boitait, elle repartait sans les douleurs. Elle n'était encore pas 100% guérie, mais elle marchait quasiment librement et des problèmes à la colonne vertébrale qui ont disparu. Comme ça, pouf, elle n'en revenait pas. C'est la première fois qu'elle venait dans une église. Donc, simplement, c'est ce qu'on va faire aussi maintenant. On va prier pour que des malades soient guéris, s'il y en a. Peut-être que vous êtes une église où tout le monde est déjà dans la santé divine, ce serait merveilleux. Je sais que même quand on prie pour les malades, souvent, il y en a toujours encore et on n'est pas au bout. Et voilà, on va continuer de le faire. Mais ce que je voulais dire, j'ai oublié un bout à la fin tout à l'heure, c'était qu'on a grandi dans notre église, on en voit beaucoup plus. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'on a pris la peine et le temps d'enseigner les gens sur ce que dit la Bible à ce sujet. Et il y a des gens qui me disent « Ah, mais dans notre église, on ne voit rien du tout se passer. » Ma question, c'est « Est-ce que c'est enseigné ?» Dans notre église, les gens ne sont pas généreux, mais est-ce que vous enseignez la générosité ? Ah, dans notre église, les gens ne louent pas Dieu en levant les mains, en tapant des mains. Mais est-ce que vous leur avez enseigné qu'on peut taper des mains, qu'on peut lever les mains, qu'on peut même danser, qu'on peut faire aller des bannières, qu'on peut utiliser des tambourins et des instruments ? Ou bien ils pensent qu'il n'y a que l'orgue qui est autorisé ? Ah, dans notre église, les gens ils ne croient pas que Jésus revient. Est-ce que vous leur avez enseigné qu'il va revenir ? Quand nous voulons voir quelque chose se passer, il faut l'enseigner. Et une fois qu'on l'a enseigné, il faut le mettre en pratique. Amen. On va faire ça. Je vais prier simplement, puis après, on va passer à ce temps de ministère. Seigneur, je te loue et je te remercie pour tout ce que tu nous donnes. Et je te remercie parce que tu es celui qui guérit. Tu es celui qui nous enseigne. Tu es celui qui nous parle. Tu es celui qui transforme nos vies. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une parole de ta part et tout est différent si nous la recevons simplement avec foi. Et c'est ce que nous faisons ce soir, Seigneur. Tu nous as donné un cœur réceptif. Tu nous as donné des oreilles pour entendre. Nous avons entendu ta parole. Et dans nos cœurs, nous disons, je reçois ta parole. Qu'elle porte du fruit. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle sépare, Seigneur, aussi ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Et elle vient juger tout cela. Seigneur, pour que nous puissions discerner ce qui est de toi et ce qui est simplement de nos émotions. Et je te remercie, Seigneur, parce que ce soir, tu mets la lumière pour nous montrer quelle est ta volonté et la dissocier de ce qui est simplement notre expérience ou nos pensées à nous. Je te remercie, Seigneur, parce que ta parole, elle agit en nous qui croyons. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Nous croyons. Nous te disons, je crois, Seigneur. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu guéris. Je crois que tu libères. Je crois que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, au nom de Jésus, je bénis mes frères et sœurs qui ont reçu ce message et je te prie maintenant, par ton esprit, de venir encore confirmer ta parole. Seigneur, je n'ai pas de puissance par moi-même. Je n'ai de puissance que par toi et pour toi et par ta parole. Et Seigneur, je te remercie parce que ce que tu as commencé de faire, tu veux le mener à la perfection. Ce soir, merci pour chaque personne qui va être touchée, pour chaque personne qui va être libérée, Seigneur. Nous te donnerons déjà toute la gloire au nom de Jésus et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.